Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout un programme pour vous ce matin. On va parler de location de condos sur Airbnb, c'est dans l'air du temps. Ça devient de plus en plus compliqué. Sincèrement, là, j'assistais la semaine dernière à une rencontre de copropriétaires dans un immeuble du centre-ville de Montréal. Et dans les propositions qu'il y avait, c'était même pas une proposition, en fait, c'était un état de fait, c'était dans carrément le contrat de copropriété, si vous voulez. C'était marqué tout interdit de louer son condo sur Airbnb sous peine d'une amende de 500 $ par nuitée et 250 $ sur ce 500 seront remis à l'informateur. Sincèrement, j'ai trouvé ça énorme. Je me suis dit, ben voyons donc, on encourage les stools. Tu sais, ton voisin peut être celui qui te dénonce. T'appelles, hey, mon voisin, il loue Airbnb, je peux-tu avoir mon 250? Me semble que ça se fait pas. Ça, c'est personnel. Vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. On va se demander si c'est une bonne idée parce que du coup, on a appelé un spécialiste de la copropriété, Maître Yves Jolicoeur, qui est avocat spécialisé en droit de la copropriété. Et puis, on s'en parlait, puis il me disait, tu sais, Isabelle, en même temps, il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus. Et il a des histoires d'horreur de gens qui ont loué à Airbnb puis qui s'en sont jamais remis. Alors, il va nous raconter ça tout à l'heure. Ça, c'est en deuxième heure. Et puis, vous avez vu que le Québec, surtout la région de l'Outaouais, a été, en fait, pas mal tout le sud-ouest hier, a été secoué par de la grêle, des vents violents, des orages, alerte de tornades. Ça tombe bien. On l'avait pas prévu. Mais il se trouve que on reçoit ce matin des chasseurs de tornades, des gars et des filles qui ont comme passion de courir après les tornades. On les appelle les twisters. Alors on aura ça tout à l'heure. Voyez-vous là comment c'est busy notre truc ce matin. Donc on va parler avec nos premiers invités de voitures parce que la dernière fois qu'on s'en est parlé, vous et moi, de voitures, beaucoup d'auditeurs ont posé des questions par rapport aux voitures qu'on peut peut-être acheter à nos jeunes. Il y a beaucoup de parents qui m'ont écrit, ils m'ont dit « Ouais, je regarde, je magasine, j'aimerais peut-être acheter une voiture à mon jeune qui est à l'école, qui est étudiant. Je ne sais pas quoi acheter. » Et il se trouve que Benoît Charrette et Antoine Joubert ont toujours quelque chose à dire là-dessus. Bonjour
non,
les
non,
deux.
On parle très peu, nous.
C'est ça.
Merci d'être là, messieurs. Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Très bien.
Oui, bonjour tout le monde.
Avez-vous été pris dans les orages, vous, hier? Parce que même à Montréal, on les a...
Oui, un peu.
On les a sentis.
Lui, plus que moi. Moi, c'est devenu très noir, mais ça a duré 6 minutes. Puis après ça, ça s'est fini, là. Fait que j'étais assez chanceux.
Mais c'est là... Moi, j'étais dans un taxi à ce moment-là. Et je peux vous dire que j'étais dans une Prius... Et j'ai pas aimé comment la Prius a réagi avec les trombes d'eau là, soudaines. J'ai pas aimé ça du tout. Alors, je sais pas si c'était parce que c'était un modèle qui datait d'il y a 2 ans, mais je trouvais qu'il y avait pas de...
Bien, c'est sûr que les pneus d'une Toyota Prius, c'est des pneus conçus, c'est des pneus à faible résistance. Les systèmes anti-patinage des Toyota de cette génération-là, parce que j'assume que c'est une Prius V taxi,
ouais.
C'est épouvantable.
Ah, mais quoi, sincèrement?
Il y a un délai de réaction effrayant.
Oui, c'est très intrusif, en plus.
Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que l'aquaplanage avec ce genre de bagnole-là, c'est pas difficile.
Ouais. Je parle de ça parce qu'en même temps, c'est le genre de question que les parents vont sans doute avoir ce matin, c'est-à-dire qu'on veut un véhicule sécuritaire. Tu vois, hier, je me suis dit, mon Dieu, mais il va perdre le contrôle, ça continue. C'est le genre de choses qu'on veut savoir. Est-ce que ma voiture a une suspension sécuritaire? Est-ce que au niveau de la conduite, mon jeune va pas risquer de perdre le contrôle du volant dès qu'il y a un peu de pluie ou l'hiver sur la glace, évidemment. C'est des conduites différentes. Vous allez me dire, ça dépend beaucoup aussi de la conduite du jeune. On pourra sans doute aborder la question des cours de conduite.
L'élément le plus important est toujours entre le volant et le siège.
C'est comme l'ordinateur.
Oui. L'ordinateur fait seulement ce qu'on lui dit de faire.
Ouais, c'est ça. Parce que bon, c'est la rentrée pour les étudiants des cégeps, des universités. Bon. On encourage beaucoup le transport en commun, tout de même. On continue de dire à nos jeunes, allez-vous chercher votre carte puce si vous êtes à Montréal. Si vous êtes en région, essayez de prendre l'autobus, mais c'est pas toujours le cas.
Non.
Alors, qu'est-ce que vous... quand on aborde cette question-là, j'imagine qu'on vous le demande aussi, Antoine.
Bien, évidemment, moi, les gens assument qu'une voiture pour étudiants, c'est une Toyota Yaris, une Hyundai Accent.
Hein? Ou une Versa.
On pense toujours à la voiture outil, la voiture avec laquelle on livre du poulet, mais sur laquelle il n'y a pas un petit coq juché sur le toit. Tu sais, on pense toujours à une voiture comme ça. Maintenant, tu passes devant des écoles, puis tu vois des Mercedes CLA 250, des Audi A3, des Jeep de l'année.
Ben, dépendamment des écoles.
Évidemment, non, mais c'est incroyable.
Il va chez la gauche, pas ça que ça.
Non, je suis d'accord, mais il y a certains endroits où les voitures d'étudiants rendre jaloux les professeurs.
Ouais.
Oui. Hein, ça, on voit ça là, de plus en plus, parce que la voiture est rendue tellement facilement accessible de nos jours que c'est facile de mettre la main sur la voiture que papa conduisait il y a 3-4 ans, qui était une voiture de luxe, etc. etc. Évidemment, il faut se poser la question, quel est le besoin réel? Voilà. Mais
besoin
évidemment, une voiture d'étudiant.
Et le budget, il faut regarder ce qu'on
a. Ça. Non, mais tu sais, on riait, Benoît, de ce qu'il venait de dire, Antoine, mais c'est vrai, il a raison.
Oh,
j'en connais
oui.
des jeunes, oh, oui. Puis les parents roulent pas forcément sur l'or, là. Et ils ont décidé d'acheter une petite Audi ou une petite Mercedes, parce qu'ils se disent que c'est sécuritaire.
Non, mais moi, je donne l'exemple, je pense à un jeune que je connais qui a 19 ans, qui vient de s'acheter un deuxième véhicule. Sa première voiture, c'était un cadavre sur roue, mais qui n'a à peu près pas roulé. Puis là, il vient de s'acheter un véhicule. C'est un Ford Explorer 2015. T'es étudiant, toi.
Mm-hmm.
T'as 19 ans, tu roules dans un Ford Explorer 2015 Limited. C'est un véhicule qui se vendait 62 000 $ qui consomme 14 litres au 100 km.
Ouais.
T'as besoin de ça à 19 ans? Ben, il dit qu'il y a eu un bon prix. C'est correct, mais il y a des étapes à franchir. En fait, c'est peut-être générationnel.
Intéressant. Quelles seraient les étapes, Benoît, d'après toi?
Ben, dans la vie, il faut commencer à marcher avant de courir. C'est peut-être un peu gros de commencer dans un Explorer.
Ça veut dire prendre l'autobus quand même.
Ben, peut-être pas prendre l'autobus, mais il n'y a pas besoin d'avoir un Explorer. Qu'est-ce que tu fais à 19 ans avec un Explorer?
T'as pas besoin d'embarquer. Si tu as des besoins spécifiques, ça dépend.
Ben là,
mais dans son cas, c'est clairement pas le cas.
Non.
Hey, peut-être que vous jugez tellement. Peut-être qu'il fait de la plongée sous-marine toutes les fins de semaine.
Non, mais moi, je le connais, lui. Je peux te dire qu'il n'en a pas besoin.
Mais une Golf, c'est bon pour de la plongée sous-marine.
Oui, c'est vrai. Moi, à l'époque, je faisais beaucoup de plongée tous les week-ends. Puis je peux te dire que j'avais une petite Honda Civic hatchback. Ça, c'était magnifique. Pour mettre les bouteilles puis tout l'équipement. Là,
c'est tout. Mais il y a des cas aussi. Tu sais, je pense à un étudiant qui, par exemple, habiterait à Longueuil. Puis il va à l'école à Jonquière.
Ouais.
Ben là, tu traverses le parc des Laurentides toutes les fins de semaine. Tu ne veux pas nécessairement te promener dans une petite Sion IQ ou une Toyota Yaris. Tu vas avoir quelque chose qui est plus stable, qui va avoir un meilleur élément de sécurité pour traverser le pack, composé avec des conditions routières sévères, minimalement peut-être une Subaru Impreza âgée de quelques années.
Quatre roues motrices, c'est une bonne idée
quelque chose
à ce
comme
moment-là.
Ça. Voilà. Il y a toujours une question des besoins de l'étudiant. Mais c'est sûr que si l'étudiant est en ville puis qu'il a besoin d'une voiture pour x, y raison, ben là, on pense à la voiture-outil, Toyota Yaris, Hyundai Accent, Nissan Versa, ou peut-être un peu plus gros, des Mazda 3, des Honda Civic, qui dans l'usager sont tellement communes qu'ils, au final, ne coûtent pas nécessairement beaucoup plus cher que des sous-compacts.
On parle de combien, là, Benoît?
Bien, dépendamment des années, là, mais si on recule, disons, une voiture qui a 5 ans, on peut s'attendre à payer, selon les modèles, entre 8 et 10 000.
C'est ça. Puis, je veux dire, il faut aussi faire attention. Souvent, on va penser, une voiture neuve, ça peut être une bonne option. T'sais, une Hyundai Accent, là, ça coûte 225, 230, 240 $ par mois en location. OK?
Sur combien d'années?
Sur 4 ou 5 ans, selon le modèle, etc. Bon, et puis ça peut monter, bien sûr. Là.
Ne dépassez pas le terme de la garantie quand vous louez. Si la voiture garantit 5 ans, prenez pas sur 6 ans ou sur 7 ans.
Mais non, 7 ans.
C'est trop long. Là.
Ce que je dis aux gens, c'est louer une voiture neuve pour un étudiant qui a 17 ans, par exemple. Ouais, l'idée peut être pas vilaine dans la mesure où on va avoir cette voiture-là tout au long de ses études. Par contre, les assurances viennent avec. Quand tu as 17 ans, tu n'as pas d'expérience de conduite, les assurances vont coûter cher. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que papa ou maman va mettre la voiture à son nom, va la prêter à fiston, puis là, il va y arriver un sinistre, puis l'assurance va faire, ben là, écoute... Papa la conduit jamais, c'est tout le temps toi qui l'as, et qu'est-ce qui arrive? Fait qu'il faut faire attention à ça. C'est ça que je dis souvent, une voiture d'occasion solide qu'on connaît, c'est toujours la meilleure solution. Vous avez peut-être un oncle, une tante, un cousin qui a une voiture à vendre, vous la connaissez, pourquoi ne pas aller vers cette voiture-là? Voilà. Si c'est un véhicule qui répond à vos besoins, évidemment, si...
Puis même si ça répond pas toujours exactement à vos besoins, souvent, en connaissant le véhicule, ben on connaît aussi son historique, on sait que la voiture a été bien entretenue. Et dans la famille, on est en général capable de faire un prix qui tient la route. Alors, tu sais, c'est des éléments importants. Faut pas être trop exigeant comme première voiture. Puis le budget fait foi de tout. Tu sais, Antoine le dit, il y a des locations qui sont pas chères, puis il y a des modèles comme une Spark ou une Micra que vous allez avoir à peine à plus de 10 000 $. Si vous avez un budget qui permet d'acheter neuf, faites-le. Sinon, si vous êtes à 5 000 $, vous allez être dans l'occasion certain. Mais allez voir autour de vous pour commencer.
Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des jeunes, puis qui se disent, est-ce qu'on peut faire confiance aux voitures d'occasion? des voitures usagées. Ben, là.
Faut faire... C'est comme n'importe quoi, c'est du cas par cas.
C'est ça, il faut faire ses devoirs.
C'est-à-dire?
Ben, il faut faire ses devoirs, il faut faire une vérification mécanique, il faut tenter de connaître l'histoire du véhicule, qui a été propriétaire, est-ce qu'il a été bien entretenu.
Comment tu fais ça?
Ben, généralement, les concessions vont avoir, pour les véhicules qui ont entretenu, l'historique d'entretien du véhicule. Donc, il est venu à 20 000 km faire telle chose, à 40 000 km. Donc, si vous êtes capable d'avoir les preuves d'entretien, vous avez aussi les preuves du kilométrage du véhicule.
Mais pour ceux qui magasinent sur des sites...
Carproof peut être une bonne solution.
Oui.
Vérifier le carproof du véhicule. On va savoir si le véhicule a été accidenté, s'il y a eu des réclamations, etc., etc. Appeler le manufacturier directement, le service à la clientèle de Ford du Canada, de Honda Canada, par exemple, qui, eux, vont vous être capables de vous dire où le véhicule a été vendu, s'il y a eu des rappels qui ont été effectués, si le véhicule a été gravement accidenté.
Avec le numéro d'identification du véhicule.
On peut faire une enquête, c'est sûr. Mais, tu sais, il faut
t'appelles
aussi viser...
chez, mettons, t'appelles chez un grand manufacturier.
Oui, oh, oui. Service à la clientèle de Ford ou Toyota ou GM, là, les grands de l'automobile, puis on donne le
si
numéro d'identification.
Si c'est une GM, ne pèsez pas sur Runstar, ça ne sert à rien. C'est un numéro différent. Je vous le dis tout de suite, la madame, elle va être mêlée.
Êtes-vous en sécurité?
Oui, exact. Oui, c'est ça. Okay. Ça, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il m'est arrivé une anecdote il y a quelques années avec une Chevrolet où les coussins gonflables s'étaient déployés pour absolument aucune raison. J'avais pas eu d'accident avec la voiture, mais les coussins gonflables s'étaient déployés. Et OnStar m'avait téléphoné sur le champ pour savoir si j'avais besoin des services d'urgence. Alors, j'ai dit non, je veux dire, je suis pas blessé. Les coussins gonflables ont seulement sorti pour rien. Et 15 minutes après, OnStar me rappelait si j'avais été satisfait du service qu'OnStar m'avait donné lors du premier appel. Alors, on peut pas dire qu'ils n'ont pas de la suite dans
au
les
moins,
idées.
C'est juste au moins, ils répondent, eux.
C'est juste que la voiture, elle, est un problème.
Ouais.
En l'occurrence, c'est une Chevrolet Camaro.
D'ailleurs, parlant d'une autre anecdote, tu as été témoin d'un accident en Floride qui impliquait des jeunes, justement.
Oui, pas plus tard que la semaine passée, j'étais justement avec mes enfants sur la 95. Puis je prends 30 secondes pour mentionner que je pense que la Floride est l'endroit au monde où les gens conduisent le plus mal.
Écoute, je suis tellement d'accord. Je pensais que c'était au Québec.
Non, c'est
épouvantable. Mais il y a pire que nous.
D'abord, le cellulaire au volant là-bas est permis.
C'est une plaie.
Oui, mais c'est permis. C'est même pas interdit.
Je n'en reviens pas.
Et c'est incroyable. La 95, pour les gens qui connaissent cette autoroute-là, ça a 5 ou 6 voies de large selon l'endroit où on circule. Et tu zigzagues et ça roule, là. C'est pas 100 km/h, c'est 135, 140. Et ce qui est arrivé, c'est
ils mettent pas leur clignotant quand ils changent de voie.
Non, ça, c'est une option. Quand tu achètes une voiture en Floride, ça vient pas avec. Faut que tu prennes l'option, puis il y a bien des gens qui apprennent pas.
Hey non, mais c'est ça, Benoît, t'as-tu dit
ça? Non, j'ai roulé en Floride, moi aussi.
Il y a plein de Québécois. T'sais, tous les Québécois ont déjà roulé en Floride ou à peu près.
Je me suis rendu à Key West. J'ai jamais trouvé une route aussi longue.
Oui, c'est
la vie.
Tu fais
c'est dangereux.
Des Mustangs décapotables de location avec des gens qui cherchent leur hôtel. C'est incroyable.
Ah, mon Dieu. Mais toi, t'as vu deux jeunes femmes qui roulaient à.
Oui, qui roulaient. Regarde, moi, je devais rouler à peu près 130, 135. Je suivais le trafic en kilomètre-heure. Évidemment, la limite là-bas est à 70 000. À l'heure, mais tu suis le trafic à peu près à cette vitesse-là.
Monsieur l'agent, suivais le trafic.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est pas moi, c'est...
Pas de problème. Et deux véhicules en avant de moi, c'était un petit Ford Transit Connect avec deux échelles sur le toit que je vois commencer à zigzaguer un petit peu. Puis c'est un véhicule de quelques années, là. Un véhicule assez âgé en conditions moyennes. Et là, j'ai commencé à voir le véhicule zigzaguer pour finalement perdre le contrôle. Le véhicule a frappé le parapet central, donc le mur de béton central, pour finalement changer sa trajectoire et commencer à capoter.
Oh.
Il a fait facilement 7 à 8 tonneaux avant de se retrouver complètement dans la voie opposée, donc 5 voies de l'autre côté. Alors, on s'est immobilisé tout de suite. La chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas un autre véhicule qui l'a frappé. Et quand je suis arrivé à côté du véhicule, c'était deux jeunes filles de 20-22 ans.
T'as été le premier à arriver?
J'étais le deuxième véhicule en arrière, le premier a continué. Puis, il y avait d'autres véhicules à côté de moi qui se sont immobilisés, mais moi, je me suis stationné, j'étais allé voir tout de suite. Puis, il y avait deux jeunes filles à bord du véhicule. Une première jeune fille qui était passagère, qui, elle, s'en est sortie avec quelques égratignures. Elle était très ébranlée, là, petit choc nerveux.
Elle est tonneau, tu veux pas ça en voiture.
Mais la deuxième, elle, c'était plus sérieux. Et c'était des collègues de travail. De ce que j'ai compris, c'était des filles qui se connaissaient pas très bien parce qu'elles travaillaient ensemble. Mais la conductrice avait un cellulaire au volant, était en train de texter. pendant qu'elle conduisait à 135 km/h dans la voie de gauche complètement, avec un véhicule qui, évidemment, n'était pas une voiture, c'était un petit camion de livraison avec du poids sur le toit. Donc, évidemment, les transferts de poids sur un véhicule de ce genre-là, ça n'a pas la stabilité d'une automobile, là. Elle l'a appris à ses dépens. Moi, je peux vous dire, pour avoir vu la jeune fille, que c'était pas très beau. Elle a perdu un pouce. Moi, quand j'ai vu la jeune fille, elle n'avait plus de pouce. Son index, il restait que l'os. Ah. La main saignait au grand complet. Et j'ai pris son cellulaire qui était rendu sur l'asphalte, en dehors du véhicule, qui était rempli de sang. Alors, qu'est-ce qui est arrivé exactement, je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'elle a eu une bonne leçon. Puis quand tu vois des situations comme ça, tu comprends à quel point ça peut être...
Écoute, il faut le dire à nos jeunes. Je pense que c'est probablement une des grandes préoccupations des parents qui se préparent à acheter un véhicule ou dont le jeune a une voiture.
Mais
il faut se le dire
là.
À nous aussi.
Ouais. Parce il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Il y a d'abord le cellulaire au volant. Bien sûr que ça, c'est un problème. Mais au-delà de ça, c'est être concentré à ce que tu fais.
Ouais. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils s'engueulent en voiture. Ils ne parlent pas au cellulaire.
Non.
Mais ils ne sont pas du tout dans la route. Non. Ils ne sont pas sur la route. Ils sont dans leur chicane.
Il y a beaucoup trop de causes.
Ou dans leur discussion.
Il y a beaucoup trop de causes de distraction dans les voitures.
Complètement.
On parle du cellulaire, mais on parle aussi de tous les écrans centrales que dans les véhicules, qui sont des écrans tactiles qui sont passés de 3 pouces à 6 pouces, à 7 pouces, à 8 pouces. On est rendu à 12 pouces dans bien des cas. Et malheureusement, dans bien des cas, si on veut configurer quoi que ce soit ça à l'écran, il faut quitter les yeux de la route. Et quand tu vas à 130, là, en une seconde, tu fais pas mal de
minutes. Tu vois, je suis en train de magasiner un véhicule en ce moment, puis j'ai un ami qui me dit...
Ça me semble que tu me dis ça fait 4 ans.
Oui, à toi, mais c'est ça. Oui, c'est vrai.
Un jour, tu vas prendre une décision éclairée, Isabelle.
Moi, je pense que je l'ai prise. Oui. Et bref, il me dit, un de mes amis, donc, qui est grand, il me dit, tu devrais essayer tel véhicule. Écoute, c'est génial. Tes textos rentrent en même temps.
Allez.
Tu conduis, tu peux lire tous tes courriels. Ben oui. Puis je me dis, est-ce que je veux ça vraiment?
Ouais,
et ma conclusion, c'est que je ne veux pas avoir ça.
Non.
Parce que, écoute, c'est incroyable.
Ce qui explique pourquoi tu gardes ta vieille guimbarde année après année.
Non, c'est pas pour ça.
Non,
okay. C'est parce que j'ai pas encore compris que parfois, il faut tourner la page.
Ouais.
Nous allons à la... Mais là, je l'ai compris.
Ouais.
Nous avons une pause à prendre ici. On revient tout de suite après. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, on se pose la question ce matin. Comment faire le bon choix quand vient le temps d'acheter un véhicule, une voiture à son jeune? Il y a beaucoup de jeunes aussi qui font... C'est drôle parce que les jeunes qui sont quand même... On nous dit qu'ils sont plus pro-écologie, un peu plus portés vers l'environnement. Étonnamment, ils sont très véhicules à moteur, à essence et... Ben, vous m'expliquerez pourquoi. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, dites-moi d'où vient cet intérêt toujours. Je pense qu'il y a la passion de la voiture aussi qui est là. Puis aussi, Benoît me montre, c'est vrai, il y a l'argent. T'achètes, tu sais, c'est qu'ils sont comme nous. Ils achètent un paiement, ils veulent se déplacer. Puis comment tu te déplaces? Pas cher. Il y a une notion de liberté aussi qui est reliée à la voiture.
Ça, c'est évident.
T'sais, on se souvient tous de pourquoi on a acheté notre premier véhicule. C'est la liberté la plus totale.
C'est vrai. C'est encore vrai.
Et c'est ça encore.
On n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Si on voulait aller voir nos amis, ça nous prenait une auto.
C'est ça, ouais. Quoique quand même. Aujourd'hui encore, t'as plein de raisons de...
Oui.
Tu sais, si tu veux voir un peu de pays. On s'arrête ici, très courte pause. 514-790-9850. 1-866-790-9850 si vous voulez nous joindre à tout de suite. Comment faire le bon choix quand il s'agit de choisir un véhicule pour son jeune? Évidemment, même ceux qui n'ont pas de jeune à eux, vous en avez peut-être dans votre entourage.
Ou ceux qui ont le cœur jeune,
j'allais le dire, effectivement. Parce que ce que vous nous dites ce matin, Benoît Charrette, Antoine Joubert, ça vaut aussi pour toute personne qui magasine une voiture en ce moment. Parce que il est question de sécurité, il est question de tenue de route.
Le budget d'un jeune aussi.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est des questions de budget. T'sais, on le dit souvent, les jeunes vont chercher un paiement de voiture parce qu'on n'y a pas beaucoup d'argent quand c'est pas les parents qui payent. Mais pour ça, ça m'intéresse de savoir ça. Est-ce que c'est plus souvent qu'autrement au Québec? Qui paye la voiture, la première voiture du jeune? Moi, ma première voiture, c'est moi qui me la suis payée.
Moi aussi.
Vous autres?
Moi aussi.
J'ai
payé
l'impression
3 865 $ avec deux pneus d'hiver.
J'ai l'impression. Pas quatre, juste deux.
Juste deux. au prix le Barbie
Day.
Moi, c'était moins cher que ça. C'était 800 $ et 180 le lendemain parce que la batterie d'alternateur avait flanché. Alors, c'est comme ça.
C'est bon.
Tu sais, quand j'ai dit commencer avec
les
étapes,
sûr,
là, y aller
ça,
étape
les
par
étapes.
Étape. Moi, j'ai commencé au bas de l'échelle.
Moi, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. J'aimerais ça que les parents me le disent. Avez-vous payé ou payez-vous le paiement de voiture de vos enfants? Christian, tiens, bonjour.
Hey, bonjour Isabelle, bonjour les boys.
Salut.
Nous, on a mis des grosses conditions à notre fille de 18 ans. On y a dit, si tu veux une voiture, faut que tu trouves un job. Parce que c'est pas nous qui payons ta voiture, c'est pas nous qui payons tes plaques et tes assurances. Fait qu'elle s'est trouvée un job, on a trouvé un bon petit deal, notre voisine, elle vendait sa petite Accent 2008 automatique, 160 000 km, très propre. On l'a eu pour 1 300 $.
Wow! Parfait.
C'est correct, le prix est honnête.
Fait qu'on avait à peu près 300 $ de réparation à mettre dessus. Fait que moi, je fais la mécanique. Fait qu'à le fond, elle sauvait ça.
Deux bearings de roue, un changement d'huile. Parce que c'est ce qui brise sur une Accent.
Non, c'est juste les chocs, les chocs pour le haillon. On aurait des petites niaiseries, mais l'auto est super propre. Bon. Elle est vraiment contente. Elle s'est trouvée un job. Elle paye son auto elle-même, ses assurances, ses plaques.
C'est bien, ça, on responsabilise.
C'est ça rend la personne à avancer dans la vie, à faire ses paiements.
Puis elle va y faire attention parce que c'est elle qui paye.
Oui, il y a ça.
Ah ouais, mais c'est moi qui lave, là, qui la mets belle.
C'est moi qui la lave.
Je la répare, mais elle est vraiment contente. Là. Moi, je l'appelle la Jelly Bean orange là, parce qu'elle est orange. Là.
Oh, mais c'est vous qui la lavez puis qui la nettoyez parce que votre fille,
ben,
elle
ouais,
ça.
Ben, qu'est-ce que papa ferait pour sa fille?
Ah, c'est ça. Mais dites-moi, mais elle s'est trouvée un travail, vous voulez dire, elle a quand même, est-ce qu'elle est toujours à l'école quand même? Ou?
Oui, elle est au cégep. Okay. Cet été, elle a travaillé au camp de jour. Là, elle s'est trouvée une job chez Walmart. Fait que, tu sais, dans le fond, elle a plus son cégep. Fait qu'elle va être responsable de son auto.
Mm-hmm.
Puis moi, je fais les réparations dessus. Je l'entretiens. Elle est super belle. Elle a eu deux sets de pneus d'été et d'hiver. Fait que pour le prix, nous autres, on était vraiment heureux. Ça coûte pas trop cher d'assurance. Pour une fille de 18 ans.
Bon, les filles, c'est un peu moins pire.
J'allais dire, est-ce que c'est encore. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que c'est encore comme ça, les filles, moins chères que les gars?
C'est moins cher un peu. Ouais. Évidemment, c'est une 2008.
Ouais,
c'est ça. Mais ça varie beaucoup selon l'endroit où vous demeurez aussi, les assurances. Ça peut être du simple au double quand tu te déplaces d'un endroit à l'autre. Mais oui, les filles, c'est encore moins cher. Sauf que c'est le cas typique d'une bonne petite première voiture abordable. On achète une voiture d'un voisin qu'on connaît, en laquelle on a confiance, on paye ça une bouchée de pain, on l'entretient, on la roule 3-4 ans. Puis après ça, bon, on sait c'est quoi une voiture. Si jamais on a eu un accrochage, un accident avec cette auto-là, c'est pas trop grave parce qu'on sait pas vider les poches pour se la procurer. Puis je pense que c'est ça, commencer à conduire, c'est d'avoir une petite voiture qui est solide, sécuritaire, mais qui vaut pas une fortune, pour se faire les dents, pour commencer à apprendre à conduire adéquatement.
Dans le cas de Christian, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est garagiste, il est mécanicien. Donc, c'est sûr que s'il y a des bris de pièces, des réparations sur une voiture qui a 10 ans, il va le faire lui-même.
Mais une Hyundai Accent, qu'importe, c'est pas trop cher à assurer. C'est pas trop cher à réparer non plus.
Vous n'aurez pas des factures astronomiques quand vous allez aller au garage, là, à moins d'avoir besoin d'un moteur. Là, mais je veux dire, dans l'entretien régulier, c'est pas exorbitant. Là.
Mais je trouve ça logique aussi de commencer avec une voiture de ce genre-là. Pourquoi? J'en connais tellement des jeunes qui ont eu comme première voiture à l'époque une Mustang 5 litres, puis une Volkswagen Corrado VR6, puis ils ont mis dans le mur en 2 semaines.
Mm.
Parce que c'était des voitures plus délicates à conduire, trop puissantes. Puis aujourd'hui, la puissance, elle est 10 fois plus présente dans les voitures qu'elle l'était quand moi j'ai commencé à conduire.
Ouais.
Quand moi j'ai commencé à conduire.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire... C'est l'enfer. Là. Procurer une voiture qui a 300, 350 chevaux aujourd'hui pour quelques milliers de dollars, c'est super facile.
Ouais.
Fait que d'accéder à une voiture trop puissante quand tu commences à conduire, ça, je trouve que ça n'a pas
de bon sens. Ça, c'est pas à conseiller. On a Sylvain avec nous. Bonjour, Sylvain.
Bonjour à vous trois. Pour répondre à ta question, Isabelle, non, c'est pas moi qui paye les autos. C'est elle qui paye son auto. Elle a 20 ans. Elle travaille présentement, mais à temps partiel parce qu'elle est universitaire en même temps.
Ouais.
Puis là, elle a une Toyota Echo 2000.
Ouais, ça,
c'est pas tuable.
Non, c'est pas tuable, effectivement.
Sauf que là, elle est tellement vieille qu'elle est rendue trop pourrie, là, elle rouille de partout, puis là, elle veut s'en débarrasser. Là, elle a eu un petit deal sur une Rio Kia, 2013 à 7 900 $. Qu'est-ce que vous en pensez d'une Rio Kia? Moi, en tout cas, les Rios, déjà le nom, je l'aime pas, mais pour vous autres, qu'est-ce que vous pensez de cette auto?
C'est la même chose qu'une Hyundai Accent. Hein? C'est juste une autre carrosserie. Et c'est des voitures très solides, très fiables. Moi, je ferais un traitement à tireuil là-dessus, vérifier ce qui se trouve au niveau des suspensions. Mais mécaniquement, vous ne verrez pas le bout de ça. C'est des bonnes petites bagnoles. Le seul petit défaut, puis ça n'en est pas vraiment un, en fait, surtout si on compare avec une Eco, là, c'est que ça consomme... Ouais. Ça consomme un peu plus que la moyenne des sous-compacts, mais c'est vraiment pas grand-chose.
Combien tu dis, Benoît?
À peu près un demi-litre au 100 comparé au meilleur de la catégorie.
C'est une auto qui, en ville, va rouler à du 8 litres au 100.
Exact.
Donc, ça sera
c'est
pas...
pour le prix. Est-ce que le prix est raisonnable?
5009.
Le kilométrage, c'est quoi?
Ouais.
Le kilométrage, je crois, c'était 129 000 kilos.
OK, ben tu sais, je vous dirais que c'est un prix normal. Ouais, ça dépend surtout de la version, parce qu'il y a des Rio de base, il y a des Rio qui sont très bien équipés.
Il y a des S6 qui sont bien équipés.
Fait que ça dépend de la version, mais c'est un prix qui est dans la moyenne. Et puis, vous me dites que c'est une 2013. Il y a peut-être encore une balance de garantie là-dessus. Ouais. C'est peut-être une chose à vérifier. Regardez la date de mise en service. La garantie serait sur la fin, mais regardez la date de mise en service. S'il y a une balance de garantie, c'est peut-être le moment de faire vérifier des trucs chez les concessionnaires avant qu'elle soit échue.
Mm-hmm, effectivement.
Okay, ouais. Parfait.
Merci, bon, merci Sylvain. On va s'arrêter ici, très courte pause. On vient tout de suite après avec les commentaires et questions de nos auditeurs pour nos spécialistes Benoît Charrette et Antoine Joubert. On se demande quels sont les meilleurs véhicules, comment faire le bon choix en fait pour acheter, pour s'acheter une voiture quand on est étudiant, quand on n'a pas beaucoup d'argent aussi. Ça vaut pour tous les travailleurs là, qui cherchent peut-être, parce qu'ils sont découragés du transport en commun en ce moment, qui cherchent peut-être à s'acheter un véhicule, à changer de véhicule aussi. Puis moi, je vous avoue, là, mon état d'esprit en ce moment, c'est que je suis un peu tannée de mettre des gros paiements de voiture tous les mois. Là, je veux juste une voiture qui me rend d'un point A à un point B, pas cher, puis idéalement, pas sur 5 ans. On peut-tu... Comment c'est venu, ça, tous ces contrats?
5 ans, c'est court aujourd'hui, ça.
Mais je sais, j'ai vu ça.
On vous
a dit
ça à 8 ans aujourd'hui.
Il y a du 8 ans, il y a déjà eu du 9 ans.
Oui, mais là, le 9 ans était pas mal éliminé.
Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait... Je sais pas comment on peut procéder à ça, mais... Est-ce qu'on peut avoir un certain contrôle là-dessus, ou est-ce qu'on peut demander? Là, parce que l'industrie a décidé que ça s'étalait dans le temps et tout.
Il ne faut jamais oublier une chose.
À des taux d'intérêt astronomiques.
C'est le client qui a le gros bout du bâton. Si ce que vous voyez ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'embarquer là-dedans. Là. Vous pouvez demander à payer la voiture en 3 ans, en 2 ans.
Ben oui.
Mais tu vas la payer.
Tu vas y payer. Mais c'est pour ça que tout le monde étire. Puis c'est pour ça que les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans sont apparus. Parce qu'on disait aux gens, ça va être 450 par mois. Les gens disent, je ne suis pas capable. OK, vous voulez payer 200. On vous fait ça 200, mais ça va être sur 9 ans.
Mais est-ce que le prix des véhicules a baissé ou a augmenté?
Le prix des véhicules a baissé.
Oui, je sais, vous m'aviez déjà dit ça, mais je
veux dire, je comparais, c'est drôle, parce que pas plus tard qu'hier, je regardais, là, on parle de voitures de luxe, là, mais je regardais une Mercedes SL 1991 qui se vendait à 123 000 $ en 91. Combien ça coûte une SL aujourd'hui? 125.
Non, aujourd'hui,
c'est le même prix. C'est le même prix 30 ans plus tard pour une voiture qui, technologiquement, est complètement ailleurs, on s'entend. Mm-hmm. Puis c'est la même chose pour une Honda Civic. Une Honda Civic berline en 1995, ça coûtait 15-16 000 $. Une Honda Civic de base, aujourd'hui, ça coûte 16,5-17 000. Puis manuel, pas d'air climatisé.
Puis on n'est pas en même place.
Puis on n'est pas en même place. Là, c'est deux mondes, c'est complètement... Ouais. Fait que les voitures sont beaucoup moins chères aujourd'hui et en plus sont beaucoup plus accessibles par la location, par le financement sur du long terme et par les taux d'intérêt. Ouais. Moi, je me souviens, en 90, quand mon père s'était acheté une petite voiture, le taux d'intérêt était à 7-8 %. Puis c'était financé sur 3 ans. Donc, tu t'achetais une voiture de 12 000 $, ça te coûtait 450 $ par mois.
Exact.
Puis c'était ça à l'époque, là. Mais le financement aujourd'hui est tellement facile. C'est pas pour rien qu'il y a autant de Mercedes, de BMW, d'Audi sur la route. Ça coûte pas plus cher que d'acheter une Honda Accord ou n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils sont accessibles.
J'avais fait le parallèle il y a 2 ans. Une Honda Accord bien équipée coûtait plus cher en location qu'une BMW série 3.
Ah oui, c'est ça.
C'est dans l'imaginaire des gens. C'est pas le même client, puis c'est pas le même prestige non plus, là.
Mm-hmm. On va s'arrêter ici. On vient tout de suite après. Bon, comment s'acheter un véhicule qui soit à la fois sécuritaire, économique et pas trop cher, que ça soit pour son jeune ou pour soi-même? On a Philippe avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez des questions, des commentaires?
Oui. Dans le fond, je me demandais, est-ce qu'il y a un véhicule, mettons, à moins de 10 000 $ hybride ou électrique, qui serait bon, mettons, pour un jeune qui aime ça vraiment conduire, puis qui n'est pas endormant.
Bon. Okay. Donc, à vous êtes en train de magasiner, Philippe, pour vous, là.
Bon, à moins de 10 000, à moins de 10 000, ça va être difficile. Mais il y a une chose qui existe depuis peu. Le gouvernement du Québec donne une subvention de 4 000 $ aux véhicules électriques d'occasion dans la mesure où ils sont achetés en dehors du Québec. Fait qu'il y a, en certaines concessions, si je prends l'exemple d'une Leaf, parce que c'est un modèle populaire, un Leaf 2012-2013 va se vendre, selon le kilométrage, autour de 15 000. Alors, si vous prenez le 15 000 plus les taxes, moins le 4 000, on va être autour de 12 000.
On va être pas loin de là, mais faut l'acheter en dehors du Québec et faut l'acheter avant le 31 décembre parce que on dit que c'est un projet pilote qu'on n'arrête pas de prolonger. Oui. Mais pour l'heure, c'est bon jusqu'au 31
Il peut être
décembre.
Acheté au Québec, mais il faut que l'origine du véhicule ne soit pas du Québec. Parce
ça, c'est une loi d'où, là?
Le gouvernement a implanté ça l'an dernier.
Fédéral ou québécois?
Non, provincial.
C'est provincial. Le gouvernement provincial nous encourage à acheter des voitures ontariennes?
Parce qu'il n'y a pas assez de véhicules usagés ici. Le pourcentage de voitures électriques sur le parc automobile.
Mais il
n'y
en a pas assez ici?
Non, c'est parce que si tu l'as acheté neuf, tu as eu 8 000 de rabais dessus. Ils ne veulent pas redonner un rabais sur un véhicule qui en a déjà eu un. Donc, comme il n'y a pas eu de rabais sur des véhicules, des rabais québécois sur des véhicules ontariens...
Mais
tu as
juste à dire qu'il n'y a pas de rabais si c'est usagé, puis c'est tout?
Oui, tu peux le faire. Mais si tu veux un rabais, il faut qu'il soit d'une provenance autre que le Québec. C'est inscrit dans la loi.
C'est ça.
Donc, mais il y a des concessionnaires.
Mais je trouve ça bizarre, pareil.
Mais je connais des concessionnaires qui sont sur les réseaux d'encan de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis.
Juste pour le 4 000.
Puis eux, pour le 4 000, vont le vendre. Alors, c'est une solution pour Philippe là, qui peut avoir un véhicule qui sera pas bien loin de 10 000. Là.
Il
va
pas mentionner une voiture qui était agréable à conduire. Puis dans les hybrides, à moins de 10 000, on trouve pas grand-chose. Dans les électriques, une voiture électrique, toute chose étant relative, ça peut être agréable si vous aimez le couple, l'instantané.
Prius C d'occasion.
Oh boy.
Qui est fiable, qui n'est pas le fun à conduire.
Non, il a dit le fun à conduire. Non, hein, Philippe, vous avez dit fun à conduire.
La première voiture hybride réellement amusante à
une
conduire.
Une petite Honda Civic, là, non?
Ça, c'était ennuyant, mais sans blague.
Manuel, c'est pas ennuyant, mon cher Antoine.
Oui, mais une Civic hybride, c'est pas manuel.
Non.
En fait, une des seules voitures hybrides manuelles qui s'est faite, c'est la toute première hybride vendue en Amérique du Nord. C'était la première Honda Insight, qui n'était pas très belle, qui n'était pas très puissante, mais qui était quand même amusante à conduire. Bon, on l'a rapidement oublié parce que c'était pas regardable. Puis c'était pas, c'était une voiture deux places, c'était pas super pratique.
Non.
Mais la première hybride réellement intéressante à conduire, pour
mais
moi, c'était la Jetta.
Absolument que Philippe ait une voiture hybride?
Parce que c'est lui qui nous a demandé ça.
Avez-vous demandé hybride, Philippe?
Ouais, hybride ou électrique, là.
Hybride ou électrique, c'est ça. Parce qu'il y a les fausses et les vrais hybrides, là.
Ouais. C'est ça. Et il y aurait peut-être aussi une Volt d'occasion, là, qui serait trop loin de là,
mais
qui serait intéressant.
À moins de 10 000, ça commence à être dur. Puis les 2012, il n'y en a pas. C'est le budget est limité, c'est sûr. Tout ce que je peux vous dire, mon cher Philippe, n'allez pas acheter une Mitsubishi Emiev.
Ah, pourquoi?
Pour toutes ces raisons. C'est pas amusant à conduire, c'est pas efficace. Puis c'est sûr que ça
peut pas rehausser votre ego personnel. Un
casseau à patates frites en volant.
C'est à peu près ça, une Emiev.
À ce point-là.
À ce point-là.
Merci, Philippe. Bon magasinage. On a Carl avec nous. Bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai peut-être un petit peu excellent, mais nous, notre projet d'auto pour notre fille, c'est un projet de 5 ans qu'on a eu. Quand elle a commencé son secondaire en 2012, on lui a dit, si tu passes des bonnes notes à la fin de secondaire 5, on te donne notre automère.
Okay. Ah, mais je trouve ça brillant. Au lieu de donner une récompense par-ci, par-là, à tous les bulletins, on fait un plan sur 5 ans.
Surtout qu'il y a un avantage à donner une voiture à son enfant. Il y a un avantage.
On a une surprise à travers tout ça. C'est que quand on a commencé le secondaire, j'ai acheté une Ford Fiesta à ma femme 2012, neuve, avec toutes les garanties 7 ans dessus. Plan d'entretien 7 ans dessus, tout, full, Z-Bar, everything. Quand elle a commencé l'école, ma fille, on a découvert qu'elle était TDAH et qu'elle était dyslexie sévère.
OK.
Donc, là, elle a commencé déjà à paniquer, j'ai jamais mon auto, blablabla. On l'a équipée pour son TDAH, on l'a maintenu. Elle a fini au mois de juin avec le rang d'honneur de 90% sur 5 ans.
Wow, bravo.
Bon.
Oui. Puis il y a eu son auto, j'ai donné, puis j'ai dit, je te paye la première année d'assurance parce que t'es travaillé fort.
Bon.
Donc là, le auto entre les mains de 5 ans, il est encore garanti pour 2 ans full, plan d'entretien 2 ans encore full, paye ses assurances, écoute, elle, c'est 850 $ ça me coûte pour elle.
Mm-hmm.
Pas mal. Okay.
Elle a payé ses plaques, elle a payé son gaz, elle s'attire.
Et la voiture, vous l'avez mise à son nom? Est-ce que, parce que oui, c'est ce que me disait Antoine.
Nom,
et...
Aux deux noms.
Au Benoît.
Aux deux noms. À mon nom. Son nom est sur le registre d'enregistrement et mon nom aussi.
Parce qu'il y a un avantage, tu me disais, Antoine, à donner un véhicule à son enfant, là, à son jeune.
C'est-à-dire, si vous achetez, entre parenthèses, la voiture de votre père, de votre mère, frère ou sœur, vous ne payez pas les taxes parce que
papa
peut faire un don et il n'y aura pas de TVQ à payer. Si Benoît décide de me donner sa voiture...
Ça ne marche pas. Je pas son frère.
Si ça tente, je suis ouvert à ça, il n'y a pas de problème. Mais si Benoît décide de me donner sa voiture, moi, je vais arriver au bureau des plaques, on va me demander l'évaluation de sa voiture, la valeur de sa voiture, puis je vais payer la TVQ sur ce montant-là.
Sur la valeur ou sur le montant que tu l'as acheté?
C'est un don, c'est-à-dire s'il me la donne, qu'il n'y a pas de montant, va établir la valeur de l'auto puis on va charger les taxes là-dessus.
Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de valeur minimum. Et là, on a établi à la SAC depuis quelques années une valeur minimum parce qu'il y a des gens qui arrivaient et disaient « Ah, ben, il m'a vendu son auto 1 000 $ ».
Ben oui, c'est ça.
Alors, on y allait. Mais là, à cette heure, on a une valeur minimale.
Il y a le
minimale.
Petit livre rouge, non? Il n'y a pas,
Pour des voitures qui ont 10 ans et moins, on a des valeurs. Pour les voitures qui ont un peu plus de 10 ans, il n'y a plus de valeur. Mais si c'est une voiture qui a plus de 25 ans, là, ça prend obligatoirement une évaluation de la voiture pour l'immatriculer. Fait qu'il y a une espèce de zone grise entre les voitures qui ont entre 10
et 25
ans. Entre 10 et 25,
oui.
C'est ça.
Merci, Carl. On va s'arrêter ici. On revient tout de suite après la pause. Bonjour, Sarah.
Bonjour.
Est-ce que vous cherchez un véhicule?
Mais en fait, nous, on cherchait un deuxième véhicule pour nous.
Ouais.
Et comme on a un garçon qui a 11 ans, mm-hmm. on s'est dit, bien, on va choisir un véhicule en fonction que dans quelques années, c'est lui qui va l'avoir. Mm-hmm.
Donc, okay. vous voulez acheter neuf, j'imagine?
Oui, bien, on a déjà choisi. On avait un très, très petit budget. Donc, on a choisi une Honda Fit 2018.
Okay. Très bon choix.
C'est ça, qui sont connus pour être fiables. On a pris la longue garantie aussi dessus. Mm-hmm. Donc, de cette façon-là, le jour où, dans le fond, on va changer de véhicule, bien, ce véhicule-là va pouvoir aller à notre fils.
OK.
Très bon choix. Moi, je vous conseille un truc. Je ne sais pas quelle utilisation vous faites de cette voiture-là, mais faites installer un pare-pierre sur la partie avant. Un pare-pierre, c'est une pellicule transparente que vous allez mettre sur le capot. Pourquoi? Parce que la peinture de cette voiture-là n'est pas de très grande qualité.
Non, assez fait.
Et si vous avez des éclats de roche, c'est certain que d'ici quelques années, vous allez vous retrouver avec un capot qui est sérieusement endommagé.
Ouais, ça va mettre la rouille là-dedans.
Donc, d'installer ça, ça va vous coûter quelques centaines de dollars, puis vous allez protéger la partie avant de la voiture. Puis évidemment, ajouter à ça un traitement anti-rouille, ça vaut la peine. C'est pas que c'est des voitures qui sont particulièrement vulnérables à la rouille, mais si vous voulez la garder longtemps, c'est la chose qui, de toute façon, coûte la plus chère à réparer aujourd'hui, la carrosserie. Alors, s'il y a de l'argent à mettre pour la conserver longtemps, faites ça, ça vaut la peine.
Mm. Très bon point.
Ah, ben oui, puis notre fils, on va sûrement y charger un petit montant par mois, juste par principe, parce que dans la vie, c'est pas facile, alors il va falloir qu'il paye un petit peu.
Fais du tombe de gazon.
C'est bon, merci Sarah. Bonjour Rudy.
Bonjour.
On vous écoute?
Dans le fond, moi, je cherche pas de véhicule en particulier, mais je remarque une tendance dans mon entourage. J'ai 18 ans, donc je suis directement dans la tranche d'âge à laquelle vous parlez.
Ouais. On parle-tu à Rudy qu'on connaît, là?
Oui, oui.
Encore à Rudy qu'on connaît.
Ah, vous connaissez?
Ben oui, on le connaît, c'est un amateur. Rudy nous suit un petit peu. Il a même participé à un match du Guide de l'Auto avec moi cette année.
Oh.
C'est un futur journaliste automobile.
Ah, ben allez-y, on vous écoute.
Salut, Rudy.
Ben, dans le fond, j'aimerais ça vous faire remarquer. Les gens dans mon entourage, j'ai l'impression qu'ils s'achètent, ou surtout le logo. Je vous explique. Dans le fond, au lieu de s'acheter un Corolla qui est très fiable, ben ils peuvent avoir une BMW qui a beaucoup déprécié. Il y a beaucoup de kilométrage aussi, mais rendu là, c'est le côté passionnel qui parle un petit peu avant le côté rationnel.
Oui, c'est souvent le
cas, quand il arrive chez le concessionnaire, c'est plus à coût de 100 pour les réparations, c'est à coût de 1 000. Fait que là, ils font le saut un petit peu.
Ouais. Alors, c'est ça. Puis je veux dire, aujourd'hui, des BMW abordables, ça existe.
Oui.
Moi, quand j'ai commencé à conduire, t'achetais pas ça. Une BMW de 3 000-4 000 $, c'était fini. C'est... Aujourd'hui, il y en a partout parce que c'est des voitures qui sont beaucoup plus populaires, qui se sont vendus énormément, avec toutes les marques de luxe, sont beaucoup plus répandues qu'elles ne l'étaient à une certaine époque.
Est-ce fiable?
C'est ça le problème.
Non.
C'est pas fiable.
En fait, même si c'est fiable, c'est que le jour où ça brise, ça va vous coûter le prix de la voiture en réparation pour un petit truc.
C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Même si le prix de la voiture a déprécié, les coûts de réparation, eux, n'ont pas déprécié. Alors, moi, j'ai eu un ami qui avait acheté une BMW Série 7, vraiment à un prix... À un prix qu'on pouvait à peu près pas refuser.
Oui, mais ils sont tous à ce prix-là parce qu'ils sont pas entretenables.
Mais pour réaliser quatre jours après qu'il y avait 6 000 $ à mettre dessus, puis ça y avait coûté moins cher.
J'en ai déjà eu une, je sais de quoi tu parles. Merci, Rudy, puis bonne chance comme futur chroniqueur auto. On a Marc avec nous.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une anecdote. Bonjour, j'ai une anecdote et une question. Vite fait, mon garçon, bon, j'ai dit sa première voiture, j'ai dit ce que tu vas ramasser, réussir à économiser, je vais mettre l'équivalent. Donc, tu vas avoir une voiture de meilleure qualité. C'est le meilleur coup que j'ai fait de ma vie. La première voiture, il l'a payé 300 $. Fait que ça m'a coûté 100
$. C'est bon. Ça vous a pas coûté trop cher.
Non, c'est bon. J'ai respecté mon entente et tout ça. Il s'était trouvé une petite Corolla. Mais là, il a dû la changer parce qu'elle tombait en ruine.
Ouais, à 300 $, là, effectivement.
Les voitures téléguidées, c'est plus cher que ça.
Les voitures d'enfants, là, dans les mains.
T'as même pas un vélo à ce prix-là.
À dernier, mon mécano, mais au final, ça m'a coûté de l'argent parce que je voulais pas le laisser aller au niveau sécurité. Mmh. Je l'ai rentré chez mon mécano.
Ah ouais.
Rends-la sécuritaire. Ça m'a coûté près de 1000 $.
Non, mais
bref, mon entente avec lui avait été respectée. Tout ça. Bon. Mais après coup, il vient de changer. Il s'est acheté une Mitsubishi Galant.
Ouais.
Il a eu pour pas cher, 1500 $.
Ouais.
Belle voiture, mais je connais pas les produits Mitsubishi. Qu'est-ce que ça vaut?
Ben écoutez, c'est des produits qui sont pas très beaux, qui sont pas esthétiquement en haut de la, je dirais, de la cote, mais c'est des produits qui sont extrêmement fiables. Moi, souvent, je vais dire aux gens, allez voir une Lancer. C'est un modèle qu'on regarde peu, qui a pas changé entre 2007 et 2017. Pendant 10 ans, c'était pratiquement le même véhicule, mais ça brise pas.
Ouais.
Alors, sauf que la Lancer, on la connaît. La Lancer, il s'en est vendu. La Galant, les gens l'ont complètement boudé. C'est passé sous le radar. C'est le genre de voiture que tu ramasses pour un prix dérisoire parce que personne n'en veut, personne ne sait c'est quoi.
C'est ça.
Mais c'est loin d'être une méchante voiture.
Non, ça fait
on a vendu ça de 2004 à quoi? 2010 à peu près
ouais.
Au Canada, 2010-2011. Puis c'était pas méchant. Tu sais, il y a des autos qu'on connaît pas comme ça, puis qui valent la peine d'être considérées.
Michel, pour terminer la discussion là-dessus, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, allez-y Michel, on vous écoute.
Ben, écoutez, nous, on a 5 enfants de 12 ans à 30 ans. Puis le deal qu'on a fait avec chaque enfant, c'est chaque dollar qu'il ramassait, on fournissait un dollar pour s'acheter une voiture.
On fait
ça pour toutes les choses. S'il veut s'acheter un système de son, on est prêt à payer la moitié. Il faut qu'il nous vende l'idée pourquoi il achèterait un système de son. Puis on paye un dollar, puis il paye un dollar.
Même celui de 30 ans?
Non, mais plus maintenant.
Okay. Oh, vous seriez étonné? On en connaît, là,
ça
paye
ça,
longtemps.
Mais le cannabis va être légal dans pas long. J'espère que vous fournirez pas 50% de la note.
C'est très bon.
Ça a bien marché. C'est drôle de voir parce qu'on a un de nos enfants qui avait ramassé 3 800. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, on fournit 3 800, mais je m'achèterai pas une voiture de 7 000. Si tu achetais une voiture de 3 800, taxe inclus.
Puis il a gardé le reste.
Puis l'autre avait ramassé 300 $. Fait qu'on a fourni 300 $. T'as acheté une voiture qui est financée, mais on a payé les assurances.
OK.
Ah, c'est bon, ça? OK. Non, mais c'est très bien, ça.
On responsabilise.
Ça renseigne beaucoup les parents qui sont en train de songer. L'autre jour, je parlais du téléphone cellulaire. Beaucoup de parents qui payent. Puis, et dont moi. Et pour les voitures, éventuellement, tu sais,
on peut travailler les bons arrangements.
C'est toujours éducatif d'entendre d'autres parents nous expliquer comment ils s'arrangent.
Absolument. C'est un bon truc, ça.
Ouais. Merci beaucoup, Michel. Toi, comment tu vas t'arranger, Antoine?
Moi?
Oui, pour tes enfants. Es-tu en train de mettre de l'argent de côté pour laver les voitures?
Non, il y a 7-8 chars qui traînent.
C'est ça. Tu peux pas m'en passer un en attendant, non?
Mais le problème, c'est qu'à 16 ans, on va dire, papa, est-ce que je peux prendre cette voiture-là? Non, pas celle-là. Finalement, je vais probablement l'encourager à s'acheter d'autres choses parce que tous les jouets que j'accumule... mais ça, tu sais, je peux changer d'idée comme je change de chemise. Ça, c'est l'histoire de ma vie avec les voitures.
Oui, les voitures sont sur un siège éjectable chez Antoine.
La semaine dernière, tu allais t'acheter une voiture à Québec usagée. L'as-tu achetée?
Ben oui, je l'ai achetée.
Es-tu content?
Ben oui, je suis
c'est
content.
Quoi?
Une petite Honda CRX SI 91. Une auto que je voulais quand j'étais étudiant. Puis
aujourd'hui, j'en ai regardé, puis
dans 4 mois, elle va être vendue.
Puis toi, t'essayes quelle voiture aujourd'hui, Benoît
Moi,
Charrette?
Moi, je suis en Subaru WRX STI 2019.
C'est très bien. Moi, je suis à pied.
En terminant, Isabelle, je veux juste mentionner, en fin de semaine, je fais un rassemblement au Pub Sympathique à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le 2 septembre, 10 à 16 heures. Venez nous voir là-bas.
Merci.